Bonjour, bonsoir, c'est l'heure des Apatrides Anonymes, édition du 26 janvier 2023, première émission régulière après notre super spécial de début d'année que vous pouvez d'ailleurs écouter en rattrapage sur choc.ca. On peut aussi nous entendre dans les régions du Pacifique sur les ondes de Radio Victoria au 107.9 FM. J'ai dit émission régulière, je devrais dire presque régulière, parce que contrairement à notre habitude en raison des rénovations à Choc, on n'est pas live comme c'est normalement le cas les jeudis à 18h30. On pré-enregistré le mardi précédent, mais c'est presque comme un live puisqu'on est les trois ensemble dans un autre studio et on fait un genre de one take, one shot. Presque pas de montage, on va racheter la musique après. On fait semblant que c'est bon là, la musique qu'on met. Bref, du live pas en direct. C'est quoi les Apatrides Anonymes? C'est votre rendez-vous bimensuel tous les deux jeudis sur les grandes routes migratoires, sur la démagogie populiste, sur les difficultés autant systémiques qu'ordinaires qu'éprouvent les personnes en attente de statut, les personnes racisées, immigrantes ou encore autochtones. Bref, on regarde comment, ici comme ailleurs, les minorités sont traitées ou maltraitées et ça nous donne une bonne idée de la santé quand même assez fragile de nos démocraties. Une chance pour embellir un peu tout ça. On a toujours de la très bonne musique. Simon à l'animation aujourd'hui, coucou, c'est moi, avec quelques brèves et un agenda antiraciste et mes deux acolytes présents en studio vous ont préparé des capsules d'actualité. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir, Simon.
Tu seras avec nous un peu plus tard pour des enjeux autochtones et un bloc Cuba-USA.
Exactement.
Et j'ai aussi Marie-Ève. Salut Marie-Ève.
Oui, la sémillante Marie-Ève.
Ah, sémillante, j'aurais dit frétillante. On te retrouve sous peu, très bientôt avec la suite de la dernière fois.
Eh oui, je vais encore vous assommer de chiffres.
Eh oui, Madame Hood sera avec nous. Et plus tard dans l'émission, on va aussi te retrouver avec un dossier profilage et police.
Yes.
C'est bizarre qu'on mette ça ensemble. Voilà, donc la table est mise. On peut commencer cette édition des Apatrides Anonymes directement avec toi, Marie-Ève, juste après notre indicatif musical habituel. Marie-Ève, 2022 n'est pas encore fini. On a encore des chiffres.
Oui, puis je m'excuse d'avance, mais je pense que ça se réglera pas à cette émission-ci.
Ah non.
Mais bon, comme là, je me suis concentrée la dernière fois sur les chiffres à l'échelle mondiale, je vais commencer avec le Canada, parce que j'en avais pas parlé. Donc, le Canada, où le nombre de nouveaux résidents a atteint un record en 2022, près de 432 000 selon les chiffres d'Immigration Canada. La dernière fois que le Canada avait admis un si grand nombre de nouveaux arrivants, c'était en 1913. Ouais. Imaginez-vous donc, ça fait donc 100 ans, un peu plus. Le Canada a donc dépassé sa cible d'environ 431 000, là, un petit peu, d'à peu près 1000 finalement. Mm-hmm. Dans le détail, on a accueilli 241 850 personnes du programme de l'immigration économique, 105 000 du programme de regroupement familial, mm-hmm. un peu plus de 76 500 réfugiés et 8 250 autres personnes pour des motifs humanitaires. Pour ce qui est des demandeurs d'asile en particulier, 92 175 ont franchi la frontière canadienne. C'est aussi un record et une hausse de 44 % par rapport à 2019, qui était avant la fermeture des frontières à cause de la pandémie. Donc, c'est quand même une grosse augmentation. Ça inclut aussi tous les points possibles d'entrée là au Canada, que ce soit les personnes interceptées par la GRC, celles qui ont fait leur demande dans un aéroport, dans un port ou directement dans un bureau d'Immigration Canada ou de l'Agence des services frontaliers. Puis contrairement donc au discours populiste ambiant, le chemin Roxham n'est pas l'unique point d'entrée des personnes hein, qui demandent la protection du Canada, on l'a vu.
C'est le principal quand même, je pense.
Ben près de 40 000 personnes ont traversé les États-Unis au chemin Roxham l'an passé, soit moins de la moitié de la totalité des demandeurs d'asile,
ah, okay.
42 % Donc, aussi en augmentation, ce sont les arrivées de demandeurs d'asile par voie aérienne, okay. Qui sont au nombre d'un peu plus de 17 000 pour 2022 et ils sont majoritairement en provenance du Mexique. Autre chiffre d'Immigration Canada, le dernier, celui-là. En 2022, Ottawa a traité 5,2 millions de dossiers de résidence permanente, de résidence temporaire et de citoyenneté, soit presque deux fois plus que l'année passée. Okay. Ce qui est quand même pas pire. Je termine avec une statistique peu reluisante du côté des forces constipatibulaires.
Oh! Un petit néologisme.
Le nombre de personnes qui ont été atteintes par balle par des policiers a augmenté de 25 % en 2022 au Canada. Ça, c'est selon une enquête menée par la presse canadienne. 87 personnes, donc, ont été touchées par des balles de la police entre le 1er janvier et le 30 novembre, dont 46 quand même en sont décédées. Mais en décembre, il y a au moins 5 fusillades qui pourraient être ajoutées là, aux données qui ont été compilées par la presse canadienne. Parmi celles-ci, il y a la police qui a abattu un suspect qui aurait fait 6 victimes dans un immeuble de logement de la région de Toronto. Puis un autre incident qui est survenu à Noël dans une station d'essence de Calgary. Et comme on pouvait s'y attendre, les jeunes hommes représentent toujours la forte majorité des personnes qui ont été ciblées par une arme à feu de la police. Mm-hmm. L'origine ethnique, elle, était signalée dans seulement 23 % des cas.
Donc, dans la majorité, on le sait même pas.
C'est ça. Okay. Mais de ces 23-là, 40 % concernaient des membres des Premières Nations et le quart était des personnes racisées. Et de toutes les fusillades en 2022, la GRC a été impliquée dans 40 % des cas, soit 35 fusillades contre 26 en 2021 et 15 l'année d'avant. Fait que c'est exponentiel.
Aussi dans les territoires autochtones, c'est beaucoup la GRC aussi.
Exact, oui, c'est ça. Je vais y aller avec, pour terminer, les territoires, c'est-à-dire la Colombie-Britannique, c'est la province qui a enregistré le plus de fusillades, avec un total de 23, presque le double qu'en 2021. Le service de police de Vancouver a été impliqué dans 6 de ces fusillades-là. L'Ontario a suivi avec 22 fusillades, l'Alberta avec 15, qui sont deux légères baisses là, par rapport à l'année d'avant. Au Québec, c'est 7 fusillades impliquant des policiers qui ont eu lieu, dont 5 qui ont mené à des décès. Des chiffres similaires à 2021. Pour ce qui est Manitoba, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Yukon, dont on n'a pas les chiffres, je les ai pas trouvés en fait, mais je sais qu'ils ont connu une augmentation du nombre de personnes abattues par la police cette année. Je vous disais que 46 personnes sont décédées des balles de la police. Eh bien, par comparaison, ce sont 4 agents qui sont morts lors d'une fusillade policière.
En 2022.
En 2022.
Ouais, donc le ratio est pas exactement proportionnel. Là.
Pas tout à fait.
On va en entendre parler de ces 4-là longtemps.
Donc Marie-Ève, tu reprends ton souffle. T'as pas fini avec les chiffres 2022.
Ben non, je vais avoir un autre bloc.
Ben c'est ça. Une petite pause, mini pause musicale, puis on revient dans quelques secondes. Donc, suite et fin du bilan statistique 2022, dans 2 minutes, j'en profite pour vous glisser 2 affaires judiciaires plutôt révoltantes. On est en Grèce. La première, 24 travailleurs humanitaires de l'île de Lesbos font l'objet de plusieurs accusations séparées en différents procès. Le premier procès, pour rien de moins qu'espionnage, après 4 ans de procédure, vient tout juste d'être abandonné pour des raisons obscures de vice de procédure. Procès qui était critiqué par l'ONU et par les ONG qui se battent contre la criminalisation des bénévoles qui portent assistance aux migrants. Il y a en plus des procédures distinctes qui sont encore au stade de l'instruction et qui visent les mêmes 24 travailleurs humanitaires pour trafic humain, fraude et, tenez-vous bien, espionnage et blanchiment d'argent. Le Parlement européen juge cette fronde judiciaire comme étant la plus grande affaire de criminalisation de la solidarité en Europe. Amnesty International parle de farce. Le Haut Commissariat demande d'abandonner immédiatement toutes les charges qui pèsent encore contre les 24 personnes. Donc, malgré l'unanimité, la justice grecque ne fléchit pas et tente par tous les moyens, même les plus absurdes, de casser légalement, financièrement, psychologiquement, les personnes qui œuvrent souvent bénévolement pour les ONG de la région. Pour qu'il y ait un compte Netflix, il y a un documentaire sur l'une des co-accusées, qui est la sœur de la nageuse olympique syrienne, Sarah Mardini. Ça s'appelle The Swimmers. Je l'ai pas vu. Il paraît que c'est bien bon. On se doute que toutes les accusations vont finir par tomber les unes après les autres parce que les éléments au dossier sont loufoques. Mais le but visé par l'État grec est toujours atteint malgré tout parce que ça rend le fonctionnement des ONG très difficile, ça vide les caisses, ça dissuade les effectifs actuels et futurs. Pendant que les accusations pèsent sur une personne, souvent sur des années, 4 ans dans ce cas-ci, et c'est pas fini. Ça empêche de voyager et d'être sur le terrain. Les comptes bancaires peuvent être gelés, les activités surveillées. Bref, tellement de bâtons dans les roues que ça mène même souvent à la dissolution de ces ONG qui essaient d'apporter du soutien aux migrants. Autre sombre affaire judiciaire aussi grecque qu'absurde, un migrant somalien condamné à 142 ans de prison pour trafic humain. Il s'appelle Mohamed Anad Abdi. Il a porté en appel sa condamnation il y a quelques semaines. Son récit, qui est jugé crédible par tout le monde et appuyé par tous les témoins qui étaient sur place, est le suivant. Donc, après que le canot pneumatique où il se trouvait comme migrant entre la Turquie et l'île de Lesbos, après que le canot ait été abandonné pendant la traversée par le passeur turc qui le pilotait, il a pris la relève. Avec le manque d'expérience, ça s'est pas très bien passé. 2 personnes se sont noyées lorsque le bateau a pris l'eau, mais 33 autres ont pu être secourus. Mais les autorités judiciaires grecques ont bêtement conclu que puisque M. Anad Abdi est celui qui gouvernait l'embarcation au moment du sauvetage, on le considère comme un trafiquant humain.
Oh my God.
Il y a une campagne actuelle composée de toute une coalition et menée par le parlementaire européen Stelios Kouloglou, qui soutient les personnes faussement accusées par la justice grecque dans des affaires migratoires et qui apporte de l'aide pour qui veut faire appel de ces condamnations injustes. Ça a déjà donné des résultats positifs. Donc, on va souhaiter la même chose au pauvre Mohamed. Marie-Ève, de retour à toi pour des chiffres 2022. Peut-être
quelques lettres également. oui, ben là, je retourne sur la scène internationale. Tu as bien choisi ton sujet, Simon, avec la Grèce.
Ben oui.
Parce que je m'en vais en Espagne, qui a connu une diminution de plus de 25 % des arrivées irrégulières par rapport à 2021. Ça, c'est selon les chiffres du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Au total, c'est donc un peu plus de 31 000 personnes migrantes qui sont entrées de façon irrégulière dans le pays en 2022, contre quand même 42 000 l'année d'avant. La diminution est particulièrement importante en ce qui concerne les arrivées par la mer, soit 28 % de moins qu'en 2021. Et la baisse la plus significative du nombre des arrivées clandestines concerne les îles Canaries, soit près de 30 %.
OK.
C'est la 2e baisse annuelle consécutive et la 3e en 4 ans. Le ministère de l'Intérieur l'explique par une meilleure coopération avec les pays d'origine et de transit, comme le Maroc, par exemple, d'où proviennent une très grande majorité des personnes migrantes clandestines qui arrivent en Espagne. Mais il y a un autre chiffre qui vient peut-être fournir une autre explication, beaucoup plus macabre, celle-là. Selon l'ONG Caminando Fronteras, près de 11 300 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires reliant l'Afrique à l'Espagne entre 2018 et 2022, soit 6 en moyenne par jour. Et la majorité d'entre elles, donc près de 7 700, sont mortes justement sur la route entre les côtes nord-ouest de l'Afrique et l'archipel des Canaries.
Donc, en se rendant vers l'embarcation,
oui.
En se rendant vers le port.
Donc, là où il y a une plus grande baisse du nombre d'arrivées.
Puis où c'est très désertique et très aride.
Exact. Le 2e itinéraire le plus meurtrier relie l'Algérie et les côtes du sud-est de l'Espagne. Là, on a recensé à peu près 1500 disparitions ou décès sur la même période, donc de 2018 à 2022. Mais pour l'année 2022 seulement, le même organisme a comptabilisé environ 2150 décès. Ça, c'était entre le 1er janvier puis le 30 novembre 2022. La bonne nouvelle, c'est que c'est une baisse de 50 % par rapport à 2021. En revanche, les entrées par voie terrestre, elles, dans les 2 enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla, les 2 seules frontières terrestres de l'Union européenne avec le continent africain, elles ont grimpé, donc les entrées ont grimpé de 24 %. Bon, c'est sûr que les les Marocains sont nombreux là, à vouloir tenter de traverser cette frontière-là. Et sauf que depuis mai 2022, ils doivent avoir un visa pour se rendre en Espagne, parce qu'avant, c'était pas le cas. Donc, ça expliquerait en partie la hausse des tentatives irrégulières.
Dans l'enclave espagnole ou
oui,
sur le continent européen? Ou sur,
dans l'enclave espagnole, okay. Ben, pour traverser, ouais, c'est ça. Mais donc c'est comme ça qui explique, ça expliquera en partie, comme je disais, les tentatives de traversée irrégulières. Mais il y a Omar Nagy qui est membre de la section locale de l'Association marocaine des droits humains. Lui, il précise que les migrants subsahariens, particulièrement les Soudanais, tentent moins le passage ces derniers mois, entre autres à cause des difficultés qu'ils ont à rejoindre Nador, qui est la ville marocaine frontalière de Melilla. Sur cette route-là, les moyens de transport sont très surveillés, puis les autorités aussi sont extrêmement sévères à l'égard des migrants. Ils se font pratiquement traquer. D'ailleurs, la situation des personnes migrantes subsahariennes au Maroc comme tel est si difficile qu'en 2 ans, près de 4 800 ont quitté le Maroc pour retourner dans leur pays via le programme de retour volontaire de l'OIM. Pour 2022, on parle de 2 400 personnes, principalement originaires de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Mali et du Cameroun. Mais l'OIM constate une augmentation notable des ressortissants soudanais. Donc, tout est dans tout. Vous allez voir, il y a un pic qui a, par exemple, été remarqué en juin et septembre 2022, soit juste après le drame de Melilla, où au moins 23 personnes ont perdu la vie. La majorité des personnes de ces personnes-là décédées ou qui ont été arrêtées puis emprisonnées au Maroc après la tragédie sont d'origine soudanaise.
Ah oui, c'est
ben
ça.
Oui. Donc,
c'est au mois de juin, hein, c'est au mois de juin 2022.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça a eu vraiment un effet sur les tentatives après, un effet de refroidissement, si on peut dire.
Peut-être juste de déplacement de route, en fait.
Oui. Et parmi les raisons qui contraignent les exilés subsahariens à rebrousser chemin, là, c'est-à-dire de retourner chez eux depuis le Maroc, malgré les risques qui persistent dans leur pays, l'OIM cite le manque d'opportunités au Maroc, notamment là au niveau socio-économique, les difficultés à s'y intégrer, les obstacles rencontrés pour obtenir un titre de séjour, le manque d'accès à la nourriture et au logement. Ce qui fait dire à Omar Nagy, et je termine sur ces mots à lui, il n'y a rien de volontaire dans ces retours organisés par l'OIM. Ce sont des décisions totalement forcées. On les pousse à partir et à rentrer chez eux. Voilà tout.
La vie est tellement agréable pour les migrants au Maroc. Hein?
Ouais. Souvent, on essaie de les convaincre en leur mentant aussi.
Voilà.
On leur fait la vie dure, dure, dure.
Ouais. Merci Marie-Ève, excellente synthèse. Effectivement, ça se peut qu'il y en ait encore des chiffres 2022.
J'ai pas fait l'Italie.
Moi, j'en ai tantôt.
Ben écoutez, nous, on va aller en musique. On est toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. On va écouter Sika Valmé, Erosion Experience ou Érosion Experience. Spaces colliding, no more shallow behavior.
temps.
On entendait la pièce Érosion Expérience sur l'album du même nom de Sika Valmé, qui est aussi une musicienne et illustratrice créole canadienne de Montréal. Elle est aussi dans l'art numérique et a déjà collaboré avec le Centre Phi, entre autres. L'album est paru en octobre dernier. Je voyais dans les crédits que Paul Carniello a collaboré à sa création. C'est en 10e position du palmarès Globe de Choc. Sur ça, on retrouve Mathieu des actualités sur Cuba et les États-Unis.
Ben oui, Simon, je vais moi aussi avoir des chiffres de 2022, mais j'en ai parlé un peu pour Haïti à l'émission spéciale il y a deux semaines. Mmh. Là, je vais parler de Cuba et des États-Unis parce qu'en plus, il y a des liens entre les deux pays. Hein?
Non.
Non. Haïti aussi. Donc, Cuba, qui affronte sa pire crise économique depuis les années 90, a vu un nombre record de ses résidents fuir en 2022. Plus de 270 000 Cubains, soit plus de 2,5% des 11 millions d'habitants de l'île, ont migré vers les États-Unis. Ça, c'est les chiffres qu'on a aussi, évidemment. La plupart d'entre eux arrivant dans le pays par voie terrestre via le Mexique après avoir pris un vol pour le Nicaragua où il n'y a pas besoin de visa pour les Cubains. Des milliers de migrants font néanmoins le voyage risqué en bateau vers la Floride où beaucoup sont interceptés par les gardes-côtes américains ou détenus par les autorités à leur débarquement. De début octobre à fin décembre 2022, les gardes-côtes américains ont arrêté plus de 3 700 Cubains en bateau, et un grand nombre de personnes sont mortes en tentant la traversée maritime.
Est-ce que c'est par rapport aux autres années? Est-ce qu'on sait si c'est beaucoup?
C'est plus que... Oui. Plus... Je vais expliquer les raisons, d'ailleurs, parce que ça va vraiment pas bien à Cuba. L'aggravation de la pauvreté et du désespoir a déclenché le plus grand exode depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, plus important que celui de Mariel en 1980 et plus important que celui de la crise des Balseros ou les radeaux en 1994, les deux crises réunies. Le pays a été frappé par un double coup de poing récemment, mais dans les dernières années, le durcissement des sanctions américaines pendant les années Trump et la pandémie de COVID-19 qui a éviscéré l'industrie du tourisme. Autre facteur, l'année dernière, des dizaines de milliers de Cubains sont descendus dans la rue lors des plus grandes manifestations anti-gouvernementales depuis des décennies. Une répression a suivi et plus de 700 personnes sont toujours emprisonnées. Il faut savoir que les chiffres de migration en hausse ne tiennent même pas compte des milliers de personnes qui sont parties vers d'autres pays, notamment la Serbie et la Russie, les anciens alliés du régime castrice. Le départ de nombreux Cubains plus jeunes et en âge de travailler augure d'un avenir démographique sombre.
Ben oui.
Plusieurs affirmant que Cuba se dépeuple à vitesse grand V.
Mais c'est clair, ça va être une tragédie.
Tout à fait. Obligé d'agir, l'administration Biden a annoncé quelques mesures, deux points. Rétablissement des services consulaires à La Havane, autorisation d'au moins 20 000 visas à des Cubains en 2023, suppression du plafond des sommes que les Cubano-Américains sont autorisés à envoyer à leurs proches, tandis que le gouvernement cubain a accepté de recommencer à recevoir des vols en provenance des États-Unis pour les Cubains expulsés, parce qu'ils refusaient de recevoir les Cubains qui étaient expulsés des États-Unis depuis plusieurs années. Mais on est loin de la politique de rapprochement de Barack Obama, Washington ayant également maintenu Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Il l'a inclus récemment dans une liste de pays attenant à la liberté religieuse. Autre exemple d'acharnement contre l'île, il y a quelques semaines, Pardon?
Non, je suis juste un peu... je trouve les prétextes évoqués pour le durcissement sont un peu loin de la
réalité. C'est du grand Biden. C'est du grand Biden. Autre exemple d'acharnement, il y a quelques semaines, 4 compagnies de croisière ont été condamnées par la justice américaine à payer près de 450 millions de dollars pour avoir utilisé un port de La Havane nationalisé par les autorités cubaines en 1960. La décision rendue par une juge fédérale en Floride ordonne à différents croisiéristes comme Carnival et Royal Caribbean de verser 109 millions chacun à une entreprise américaine, Havana Docks. Celle-ci avait été privée sans compensation de ses droits d'exploitation du port après la Révolution en 1960. Les États-Unis appliquent depuis 1962 un embargo économique contre l'île, on le sait, mais le président Obama l'avait assoupli, autorisant en 2016 les croisiéristes à faire escale à Cuba. Donc, le jugement dont je vous parle contre les croisiéristes ne se base toutefois pas sur cet embargo, mais sur des pas d'une loi de 1996 restée lettre morte jusque-là. À l'époque, le Congrès américain avait voulu décourager les potentiels investisseurs à Cuba en autorisant tout Américain dont les biens auraient été saisis illégalement par le régime de Castro à poursuivre ceux qui en tirent un profit à leur usage des années plus tard. Tous les présidents américains successifs depuis 1996 avaient toutefois bloqué l'application de cette mesure jusqu'à ce que Donald Trump décide en 2019 de la laisser entrer en vigueur.
J'avais jamais entendu parler de cette mesure.
Ben c'est ça, c'est un truc du Congrès un peu obscur. Sinon, aux États-Unis même, plus de 230 000 arrestations ont été enregistrées en novembre dernier à la frontière sud des États-Unis, un niveau record pour un mois, alors que 2,3 millions d'arrestations et de mesures d'éloignement de personnes sans statut ont eu lieu en 2022 à la frontière sud des États-Unis.
2,3 millions?
Oui, d'expulsions et de mesures et d'arrestations. aussi plus de Russie.
L'abolition de la police, c'est pas fait, hein, aux États-Unis.
Non, il y a encore quelques étapes.
Les gardes frontières non plus.
Non.
Aussi, plus de 800 personnes sont mortes, en grande partie noyées dans le Rio Grande, selon les responsables américains. Biden a annoncé tout récemment, Simon a parlé un peu à la dernière émission, que les États-Unis allaient octroyer 30 000 titres de séjour supplémentaires par mois pour des migrants originaires de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Les candidats à ce nouveau programme migratoire doivent, par contre, être parrainés par une personne résidant déjà aux États-Unis et pouvant justifier un emploi qui est déjà prévu. Mais les ressortissants de ces quatre pays pourront, s'ils n'empruntent pas cette voie légale, être refoulés dès qu'ils tenteront de franchir la frontière. Peu importe si c'est des méchants régimes qui vont... d'où ils viennent.
Ouais.
Même s'il est difficile de les renvoyer dans leur pays respectif en raison des conditions politiques ou sécuritaires, le Mexique s'est engagé à en accepter 30 000 par mois qui allaient être expulsés. Enfin, c'est toute une mécanique et des calculs assez particuliers. Le Mexique a eu quelque chose contre ça, c'est sûr. D'ailleurs, depuis quelques jours, des centaines d'Haïtiens se pressent dans les bureaux des services migratoires partout en Haïti pour déposer une demande de passeport. Sésame indispensable pour espérer profiter de ces nouvelles mesures migratoires américaines. On parle de 30 000 personnes de quatre pays par mois. Officiellement, un passeport haïtien est délivré contre le paiement d'un thème fiscal de 8 000 gourdes, soit 72 $. Aïe, aïe. Face à la lenteur du service et à la corruption endémique au sein de l'administration, les citoyens désireux d'obtenir leurs documents rapidement paient plus souvent le double du prix à des agences. Ce tarif informel ne cesse de grimper devant la forte augmentation des nouvelles demandes.
Ça, c'est... Non, ouais, mais ça veut dire que ça va être, en plus, ça va être les mieux nantis qui vont avoir accès à ça aussi.
Exactement. Puis ceux qui ont de la famille déjà et
même
tout.
Même s'il y en a qui réussissent à finalement obtenir le papier, ben, peut-être que la mesure aux États-Unis sera plus en vigueur.
Là. Oui, puis c'est un nombre limité par mois de personnes, comme je disais. Aussi, les États-Unis veulent restreindre l'admissibilité au droit d'asile en général pour tout le monde en établissant une règle selon laquelle les individus qui n'ont pas fait de demande en bonne et due forme ou dans un autre aux États-Unis, auprès des États-Unis ou dans un autre pays seront expulsés immédiatement avec une interdiction de nouvelle entrée sur le territoire pendant 5 ans.
Et ça, Seigneur,
ça
fait
passer à l'Europe.
Hein?
Ouais. Ça, c'est dans les cartons de Biden actuellement. Et comme le mentionnait Simon à la dernière émission, la mesure Title 42, ou titre 42, restera finalement en place jusqu'à ce que la Cour suprême tranche le fond de ce dossier. Ça va être en février que ça va commencer et ça devrait être, on devrait avoir une décision au printemps. Dernier truc que je voulais vous parler sur les États-Unis. Je regarde l'animateur, c'est Simon.
Bon, ouais, celui que tu as cité plusieurs fois.
Oui, oui, oui. Écoute, j'aime beaucoup le citer. Il est très, très articulé.
On est dans l'entre-soi.
Oui, on s'auto-cite. Pardon. Donc, en terminant, le nombre de personnes traversant à pied la frontière canado-américaine au Manitoba vers le Dakota du Nord est en augmentation.
Vers le Dakota du Nord?
Oui, oui. Du Manitoba vers le Dakota du Nord,
ben oui,
tout à fait. Ben, je fais un peu un clé d'œil à ce que Marie-Ève parlait tantôt. Selon des documents du service des douanes américains, depuis la mort tragique des membres de la famille indienne Patel, il y a un an, la famille de 4 personnes originaires de l'Inde, les incidents, entre guillemets, mensuels de l'autre côté de la frontière internationale du Manitoba sont passés de 8 à 30 par mois entre janvier et novembre. Une proportion croissante des personnes qui tentent de traverser la frontière vient désormais du Mexique et la majorité des demandes d'asile sont rejetées aux États-Unis. Selon l'organisme La Resistencia, qui travaille avec les migrants détenus dans l'État de Washington, l'augmentation du nombre de Mexicains traversant la frontière nord des États-Unis pourrait être due à plusieurs facteurs. Le renforcement des mesures le long de la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, le système de détention qui est de plus en plus sévère, j'en ai parlé tantôt, et les mesures d'éloignement, les mesures de répression. Donc, on essaie de trouver d'autres moyens. Depuis 2016, les voyageurs mexicains qui viennent au Canada ne sont plus obligés d'obtenir un visa. Cela pourrait aussi expliquer l'augmentation des passages à la frontière du Canada vers les États-Unis.
Ouais.
Autant, ça peut être le cas au Québec, mais au Manitoba, qui est l'autre passage assez connu pour les migrants qui veulent aller aux États-Unis. Donc, du nord au sud aux États-Unis, ça va très bien.
Ouais, c'est comme un jeu de serpent et échelle.
Écoute, on suit ça quasiment live.
Merci Mathieu, fort bien, comme dirait Patrice Roy.
Merci beaucoup.
Les apatrides se poursuivent dans quelques secondes. que les indicatifs musicaux qu'on entend cette semaine sont des extraits d'un album de remix de pièces de Tania Tagak, album qui s'intitule Tongues North Star Remixes. Marie-Ève voulait nous faire entendre une des pièces remixées. La dernière fois, j'avais fait jouer par erreur une version non remixée.
Bouh!
On se calme. Alors, je me reprends avec des mini-extraits cette semaine. Donc, avant d'aller en musique avec complètement autre chose, une brève locale que vous avez peut-être vu passer. Un suicide qui a eu lieu au centre de détention pour migrants à Laval en janvier 2022. Brian Archer Stone, qui était un homme non documenté, sans statut. Il était détenu en prévision de son renvoi vers les États-Unis, ce qui l'aurait séparé de son fils qui est né ici. Il avait menacé de se suicider, donc les gardiens avaient le mandat de le surveiller en permanence, mais il y a eu un 18 minutes sans surveillance, et c'est à ce moment-là qu'il s'est enlevé la vie. La coroner a publié son rapport il y a quelques jours. On conclut évidemment qu'il y a eu des fautes professionnelles graves. Il faut souligner aussi le manque criant de services d'aide, de support psychologique dans les prisons pour immigrants, services jugés très insuffisants. Et peut-être rappeler aussi que c'est pas exactement normal qu'on mette en prison des personnes qui n'ont pas commis de crime. Les gens qui travaillent auprès de ces détenus immigrants qui leur viennent, qui font plus du support psychologique, mentionnent toujours que sur leur santé mentale, c'est extrêmement difficile. Non seulement il y a une mesure de renvoi qui pèse sur eux, mais les détenus se demandent qu'est-ce qu'ils font en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Ils comprennent pas vraiment. Donc voilà. Suite à l'enquête, on recommande quoi? Plus de formation pour les agents correctionnels.
De la sensibilisation.
Une petite vidéo, là.
En mangeant son sandwich.
Un tutoriel. Donc en attendant, condoléances à la famille de Brian Archer Stone et surtout à son fils. On est toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. On s'en va en musique avec de Vancouver le groupe Destroyer. La pièce Tintoretto, It's For You, de l'album Labyrinthitis, paru en 2022. On va retrouver par la suite Mathieu avec des actualités autochtones. On écoute Destroyer.
Do you remember the mythic beast? A last-minute cancellation at the Last Supper. Oh, you prepared us such an exquisite feast, he said. Now, what do you call it when every part of the bird is used? Stakes. I went out west, out past the insane desert, out past the useless farm and the parking lot where the palm trees stoop to kiss the bishop's ring with the alley cat singing and the hidden buzzer that says ocean instead of the sound of your phone ringing and ringing and ringing and ringing and ringing and ringing and ringing. Tintoretto, it's for you. Tintoretto is for you. The ceiling's on fire. The contract is binding your little one sick at the sight. Insert three syllables here at night. They drop you from a great height into a war that you were born to lose. I think it's for you. Do you remember the mythic beast? Do you remember the sound of it singing? Ring the steel bell, I don't feel well. I confess I don't feel much like singing. This tune's got three words, ding, ding, ding. Now, repeat after me. We'll be right back.
Destroyer avec la pièce Tintoretto, It's for You. Avant de céder le micro à Mathieu pour des enjeux autochtones, je vais vous parler un peu d'autochtones d'ailleurs. C'est une journaliste française, Hélène Ferrarini, qui a publié un ouvrage en septembre dernier sur les pensionnats autochtones, mais pas ici au Canada, mais dans une colonie française, la Guyane française. À ne pas confondre avec la Guyane, point. Donc, petit pays au nord du... Ben, en fait, c'est pas un pays souverain, c'est un DOM français, un département d'outre-mer. Le titre du livre « Allons enfants de la Guyane
ah » oui,
décrit un système à peu près identique au pensionnat canadien, donc famille séparée, interdiction de parler la langue, de pratiquer ses rituels ancestraux, évangélisation chrétienne, etc. La journaliste a voulu documenter ce phénomène-là des pensionnats autochtones guyanais parce que même si, paraît-il, la parole commence à se libérer en Guyane française, c'est quand même assez tabou encore d'en parler. Elle dit aussi qu'il existe à peu près pas d'informations et de documentation sur les pensionnats autochtones en Guyane française. Donc, un genre de chape de plomb sur le sujet qu'elle a tenté de retirer. Énorme travail qui a été, on le devine, long et fastidieux. Donc, on remercie Mme Hélène Ferrarini pour cette publication dont je rappelle le titre « Allons enfants de la Guyane » aux éditions Anacarsis. Donc, Mathieu... On reste dans les enjeux autochtones, mais on quitte la Guyane et on revient ici.
Oui, mais je vais parler de pensionnat dans quelques instants, donc on est vraiment dans les, on est vraiment connectés.
Quelle fluidité.
Ah, c'est tout. Écoute, on se croirait live. donc, les pensionnats, oui, mais aussi les foyers familiaux fédéraux pour autochtones. Je vous en parle dans quelques instants. Au niveau des pensionnats, la Nation Cree, Star Blanket, quel beau nom, en Saskatchewan, a annoncé récemment que plus de 2000 lieux susceptibles d'être examinés ont été détectés sur le terrain de l'ancien pensionnat pour autochtones de Lebret après des fouilles effectuées par Géorad. Ces recherches ont été lancées en novembre 2021 dans le but de retrouver les tombes d'enfants disparus, alors qu'il fréquentait ce pensionnat qui a fermé ses portes en 1998, parmi les derniers en activité au Canada. Aussi, la Première Nation Anishinaabe Wusosk-Onigum a découvert la semaine passée 171 sépultures potentielles sur le terrain de l'ancien pensionnat St. Mary's à Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario. Selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, créé après la commission du même nom, au moins 36 enfants sont morts officiellement au pensionnat pour l'instant. L'Église catholique a géré l'établissement de 1897 à 1972. Aussi, on ne peut passer sous silence que le fédéral a annoncé en fin de semaine dernière qu'une convention de règlement a été conclue dans le cadre du litige collectif de la bande de Godfredson en Colombie-Britannique. La demande d'indemnisation collective avait été déposée en 2012. Le Canada versera 2,8 milliards de dollars qui seront placés pendant 20 ans dans une fiducie indépendante du fédéral. Le recours collectif visait à obtenir des réparations pour la perte de la langue et de la culture causée à d'anciens élèves externes et internes et externes par les pensionnats pour autochtones. En échange de cet accord, les 325 bandes de partout au Canada ont accepté de libérer complètement, définitivement et pour toujours la couronne des réclamations qui pourraient éventuellement découler des préjudices collectifs infligés par les pensionnats aux Premières Nations. Il y a le Grand Conseil des Cris du Québec entre autres là-dedans, donc c'est une grosse, grosse entente. Aussi, une autre entente de principe a été obtenue au début de l'année dans le cadre du recours collectif Percival lancé en 2019 concernant les foyers familiaux fédéraux où ont été envoyés de jeunes élèves autochtones afin d'aller à l'école publique dans les villes, l'école publique dans les différentes provinces. Elle comprend une indemnisation de 10 000 $ pour les personnes qui ont été placées dans ces foyers entre 1951 et 1992 et des indemnisations supplémentaires pouvant aller jusqu'à 200 000 $ dans les cas d'abus physiques et sexuels.
Ça, c'est comme, dans le fond, c'est comme des familles d'accueil temporaires, c'est ça?
Temporaires, c'est ça. Pas comme la RAF des années 60 où on les mettait de force dans des familles blanches, mais pour l'année scolaire, on les envoyait dans... C'était géré par le fédéral. Mais c'était des familles qui les accueillaient, ouais, exactement. Des investissements de 50 millions de dollars sont également prévus afin de soutenir la commémoration, la guérison, la langue et la culture dans le cadre de la même entente. Le fédéral estime qu'environ 40 000 enfants autochtones ont été placés dans ces foyers qu'ils supervisaient entre 51 et 92. Un rapport interne du ministère des Affaires indiennes en 1971 avait déjà soulevé des inquiétudes majeures en ce qui concernait les procédures du programme, la sélection des foyers parfois instables et surpeuplés, l'implication des parents autochtones plus ou moins absente, la fréquence des changements de foyer, l'octroi des soins de santé, l'accès à des documents. Donc, une autre cause qui est passée un peu sous silence, là, mais qui a été... c'était entériné par la Cour fédérale, mais c'est sur la table pour le moment.
Des causes importantes, c'est important. Quand même des gros enjeux. Là,
c'est comme la suite des pensionnats un peu aussi en plus, fait que c'est quand même important. Sinon, ben, les plus hauts tribunaux du Canada et des États-Unis devraient statuer en 2023 sur des causes portant sur la protection de l'enfance, qui pourraient avoir de profondes répercussions sur les droits des Autochtones des deux côtés de la frontière. La Cour suprême du Canada se prononcera sur la constitutionnalité de la loi fédérale sur la protection de l'enfance autochtone, la loi C-92, dont on a parlé souvent ici, alors que la Cour suprême des États-Unis décidera de l'avenir de l'Indian Child Welfare Act. L'objectif des deux lois est de maintenir les enfants autochtones en contact avec leur famille, leur communauté et leur culture. C-92 reconnaît également que les communautés autochtones ont le droit de créer leur propre politique et loi sur l'enfance. On en a parlé souvent.
Ouais.
Au Canada, pour rappel, dans le dernier recensement, les enfants des Premières Nations, Inuits et Métis représentent 54 % de tous les enfants pris en charge par les systèmes de protection de l'enfant, de l'enfance, alors qu'ils constituent moins de 10 % de l'ensemble des enfants canadiens. Depuis 2019, le Québec conteste la loi C-92, arguant qu'elle empiète sur ses compétences provinciales.
Ben oui.
Okay. C'est un classique de Legault.
Là. Oui, c'est limité. En février 2022, la Cour d'appel du Québec a reconnu la constitutionnalité de C-92, donc le provincial a perdu. Le Manitoba, l'Alberta et les territoires du Nord-Ouest, entre-temps, se sont joints au Québec et contestent aussi la loi devant la Cour suprême. Cindy Blackstock, la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, se désole également de ces contestations qu'elle qualifie d'offensantes pour les peuples autochtones. Je la cite, ces gouvernements ont commis ce qui a été qualifié de génocide culturel par la Commission de vérité et réconciliation et ont été dénoncés par le Tribunal canadien des droits de la personne pour la discrimination systémique et délibérée. Cela rend cette affaire encore plus ahurissante. Du côté américain, l'Indian Child Welfare Act favorise depuis 1978 le placement des enfants autochtones dans des familles autochtones. Cette loi est cependant contestée par l'État du Texas et des couples non autochtones qui souhaitent adopter des enfants autochtones. Les critiques de la loi soutiennent notamment que l'Indian Child Welfare Act outrepasse la compétence fédérale et établit une discrimination fondée sur la race. Si la Cour suprême des États-Unis convient que la loi établit bel et bien une discrimination fondée sur la race, cela pourrait même redéfinir le statut légal distinct des Autochtones aux États-Unis. Mm. À l'heure actuelle, ce statut distinct est défini la plupart du temps par des traités et non pas par une loi fédérale. Donc,
contrairement au Canada. Là.
Fait qu'il y a des parents non autochtones qui veulent adopter des petits-enfants autochtones, puis ils peuvent pas en vertu de cette loi-là. Fait que c'est ça. Est-ce que j'ai un peu de temps, Simon, pour...
Je laisse Marie-Ève à la régie décider.
Pas beaucoup.
J'avais deux cas de tromperie, mais je vais juste en parler d'un, okay, rapidement. La professeure et ancienne juge Mary Ellen Turpel-Lafond ne travaille plus à UBC, l'Université de la Colombie-Britannique, depuis le 16 décembre. Ouais. A annoncé l'établissement. Le porte-parole n'a toutefois pas précisé les raisons de son départ, indiquant ne pouvoir divulguer les renseignements personnels, etc. En octobre, l'avocate a fait l'objet d'une enquête de CBC, remettant en question ses origines autochtones. Pendant des décennies, Mary Ellen Turpel-Lafond a affirmé avoir des ancêtres cris. CBC n'a toutefois trouvé aucune preuve de ses affirmations, alors que les documents indiquent plutôt qu'elle serait d'origine européenne. CBC a également affirmé qu'elle avait fait des déclarations publiques inexactes sur ses travaux universitaires. En réaction, UBC avait assuré à l'époque de l'enquête son soutien public à son employé, louangeant son travail à la tête du Centre de dialogue et d'histoire des pensionnats pour autochtones. On revient à ça. Dans la foulée de l'affaire, un groupe nommé le Collectif des femmes autochtones avait publié une déclaration indiquant être profondément troublé que les professionnels autochtones et non autochtones, les politiciens et les recteurs aient été aussi rapides à défendre publiquement une personne qui affirme être autochtone alors qu'il n'y avait aucune preuve vérifiable pour le confirmer. Donc ça, c'est un cas parmi d'autres, mais des tromperies ou des duperies ou des fraudes, j'en ai plusieurs dans ma besace, fait que je pourrais vous en parler à d'autres occasions.
Il y en a eu au Québec, je crois.
Oui, oui, puis il y en a eu des récemment. Donc,
il y a un terme pour ça, mais j'ai oublié, c'est autochtone, wild, not autochtone, je ne sais pas trop. Mais...
Oui, ou c'est un terme.
Red washing.
On vérifiera ça,
on se met là-dessus. Voilà, Simon, pour les actualités autochtones.
Merci beaucoup, Mathieu. Donc, c'est toujours les apatrides anonymes sur choc.ca. On revient dans quelques secondes.
I was numb. I was entered too young. Numb. I was numb. I was entered too young.
Donc, Marie-Ève, de retour en studio, police profilage.
Ben oui, je vous en ai parlé un petit peu tantôt là, dans mes chiffres avec les fusillades policières.
Oui.
Mais bon, puis toi, Mathieu, tu nous, dans tes dossiers à surveiller pour 2023 de la dernière émission, tu l'as mentionné aussi, c'est l'appel du gouvernement Legault de la décision du juge de la Cour supérieure Michel Hiergeau déclarant illégales les interceptions routières sans motif réel.
Routières.
Puisqu'elles sont très souvent basées sur du profilage racial. De leur côté, ben les policiers, eux autres, ils prétendent qu'ils ont absolument besoin de ces interceptions aléatoires-là pour assurer la sécurité routière et lutter contre les diverses formes de criminalité. Sauf que, comme le disait le juge Hiergeau dans son jugement, il est impossible de conclure un lien direct entre ce type d'interpellation-là
routière.
Et policière routière et la réduction du nombre d'accidents graves de cas de conduite avec les facultés affaiblies ou de conducteurs au volant sans permis de conduire, pour la simple et bonne raison que la police tient pas ce genre de statistiques-là.
De toute façon, on le sait comment ils procèdent. Ils voient une personne noire avec une voiture qui vaut un peu plus que 20 000 piastres, puis
vous
voilà.
Allez voir, j'ai des cas.
Oui, elle a des bons exemples.
Par exemple, mais là, c'est sur le fait qu'ils ont pas de statistiques. En 2021, les policiers montréalais ont intercepté 1300 conducteurs pour capacité affaiblie, mais le SPVM n'a pas comptabilisé combien de ces interceptions-là étaient aléatoires. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que, selon le plus récent rapport annuel de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, celle-ci a ouvert 69 dossiers pour des situations alléguées de profilage racial en 2021-2022. Le cas le plus récent, c'est celui de Pierre-Marcel Monsanto. Puis là, attachez votre sucre avec la broche. Il a été interpellé à 15 reprises en moins de 3 ans par la police de Terrebonne, mesdames et messieurs.
Ah, c'est les voisins de Repentigny.
Et ça. Pourquoi? Simplement parce qu'il conduisait la voiture de sa femme.
Ah,
oui.
Okay.
14 des 15 interceptions routières qui ont fait l'objet de plaintes de sa part sont survenues en moins d'un an, entre septembre 2018 et mars 2019. Le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation des véhicules qu'il conduisait aurait même fait l'objet de recherches dans les bases de données policières à 83 reprises pendant cette courte période-là.
Il est dangereux, hein, le monsieur?
La CDPDJ s'est donc tournée vers la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir un dédommagement de 205 000 $ pour M. Monsanto, qu'elle estime, bon, victime de discrimination, de profilage racial et de harcèlement. Il s'agit d'une action judiciaire exceptionnelle par le fait que, normalement, ce type de dossier-là est porté devant le tribunal des droits de la personne, mais aussi par l'importance des sommes réclamées, soit 170 000 $ à la ville de Terrebonne en dommages moraux et punitifs, et une somme totale de 35 000 $ aux 18 policiers impliqués, donc 35 000 divisé par 18. Autre dossier de profilage racial allégué, puis je vais terminer avec celui-là, qui se passe à Halifax cette fois-ci, c'est celui de l'arrestation de Kayla Borden qui avait eu lieu là, en juillet 2020. Je vous en parle aujourd'hui parce que lors de l'audience de la commission de révision de la police de la Nouvelle-Écosse qui s'est tenue au début du mois de janvier, le chef de la police de Halifax a affirmé que bien qu'il reconnaisse que le système, que le racisme systémique existe au sein de son service, il pense pas que ce soit le cas dans l'affaire Kayla Borden, par exemple.
Ah bon?
Non.
Pas celui-là.
Pas lui. Pour rappel, les agents qui ont arrêté Mme Borden cherchaient une voiture qui avait fui la police un peu plus tôt. Quelques instants après l'arrestation, les policiers ont réalisé qu'ils avaient arrêté la mauvaise voiture. Alors, un agent a ensuite relâché Mme Borden avec des excuses.
Ah, quand même.
Kayla Borden a porté plainte. Une enquête interne de la police a examiné les actions des deux agents, là, Jason Messner et Scott Martin. L'enquête a conclu que les agents avaient commis absolument aucun acte répréhensible. Et c'est donc la raison pour laquelle Kayla Borden a fait appel de cette décision-là auprès de la commission de la révision de la police, dont on va surveiller la décision qui viendra.
Peut-être en 2023.
Peut-être, oui.
Qui sait? En tout cas, je sais pas où il fait mieux le bon. Où il fait bon vivre le mieux, à Terrebonne humeur? Ou
oui, non, c'est ça. C'est certainement pas
ou
à Terrebonne.
Ouais, c'est ça.
Mais Terrebonne, il se passe beaucoup de choses. Hein? 18 policiers qui s'acharnent sur un monsieur parce qu'il a l'auto de sa femme.
Ben, j'ai essayé de faire le calcul tantôt. Ce sont souvent deux patrouilleurs. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont revenus plusieurs fois l'interpeller?
Ben,
c'est difficile.
Ouais, puis il n'y a pas 1000 flics à Terrebonne, c'est sûr. Non.
Non.
Eh là là.
Eh là là.
Donc, on poursuit immédiatement avec l'agenda des apatrides anonymes. Donc, quatre suggestions pour vous à vos papiers. D'abord, samedi soir prochain, 28 janvier, lancement de la revue Hasta Donde, réflexion sur la grève colombienne de 2021, publiée par le PASC, projet accompagnement solidarité Colombie. Et oui, bientôt 2 ans, ce déclenchement de grève et de mobilisation massive partout en Colombie, ça avait commencé en avril 2021. Donc, le PASC a regroupé une compilation d'analyses, de reportages et d'éditoriaux rédigés pendant cette mobilisation historique. La soirée et la revue sont gratuites, donc si vous voulez y assister ou juste avoir une copie, rendez-vous au Atomic Café, samedi 18h30, 3606 Ontario Est, près de la rue Joliette. Autre événement à l'agenda, dans 2 semaines celui-ci, Guinean Refugees Organizing for Status for All in Montreal. Donc une série d'invités guinéens pour la plupart vont vous parler de leurs difficultés en tant que demandeurs de statut ou réfugiés au Canada. Ça va avoir lieu le vendredi 10 février à 15h au Shift, Centre pour la transformation sociale à l'Université Concordia. 1400 Maisonneuve Ouest, s'il y en a qui veulent noter le local, c'est le LB145. Maintenant, la CIMAD, l'une de nos sources d'informations privilégiées aux apatrides. La CIMAD, donc, vient de sortir une série de 4 podcasts, une vingtaine de minutes chacun, qui s'appelle « Nous, les bannis », où on donne la parole aux personnes étrangères qui subissent une décision de bannissement, donc des interdictions de territoire.
En France,
oui, merci de le préciser. Plusieurs témoignages assez troublants, assez tristes même, qui nous permettent d'apprendre plein de choses sur le système d'immigration français. On peut écouter les épisodes sur lacimade.org. Vous les trouverez en cliquant sur « S'informer » et sur « Podcast ». On termine l'agenda du 26 janvier 2023 avec un genre de Pac-Man qui s'appelle Billionaire Game Eat the Rich Before They Eat You. Le jeu en soi est pas vraiment intéressant, c'est très primitif, mais l'intérêt réside dans les capsules qui apparaissent ici et là, aussi drôles qu'informatives sur, par exemple, les Irving, Guy Laliberté, etc. Si vous avez rien à faire, allez sur billionairegame.ca, Marie-Ève.
C'est un genre de Pac-Man anticapitaliste.
Oui, exactement. Mais c'est vraiment les capsules qui sont intéressantes. Donc, ben voilà pour l'agenda et voilà aussi pour notre émission qui tire à sa fin au retour de notre petit pont musical habituel. On vous attend avec la conclusion. Avant de vous quitter, peut-être juste souligner le fait que le long procès du néo-nazi Gabriel Seuillé-Chaput s'est finalement conclu cette semaine avec un verdict de culpabilité, jugement aussi clair que cinglant. Donc le monsieur, qui était un des principaux producteurs de contenu pour le site de Daily Stormer, le plus important portail d'extrême droite au monde, est coupable d'avoir fomenté la haine contre les Juifs. Donc le juge n'a pas cru que l'idéologie haineuse de Seuillé-Chaput et sa négation répétée de la Shoah était de l'humour ou de la simple ironie, comme il le prétendait. C'était d'ailleurs pas mal l'essentiel de sa défense. La sentence sera connue au mois de mai. Malheureusement, il est toujours libre d'ici le mois de mai. La personne qui s'était le plus illustrée dans cette saga judiciaire, la star d'un soir, c'était son avocate, maître Hélène Poussard, qui reprenait certains des éléments négationnistes et révisionnistes de son client. Elle était complètement explosée du cerveau et remettait en question le nombre de 6 millions de morts. Elle a dit qu'il est possible d'être nazi sans être d'accord avec l'extermination des Juifs. Ou encore, attachez bien votre tuque, encore une fois. Je pense que si des gens sont morts dans des camps de concentration, c'était pour économiser de l'argent. Donc, j'ai vérifié. Elle est toujours dans le bottin du barreau du Québec. Elle pratique à Montréal. Je suis un peu surpris. Je sais pas s'il y a des procédures pour qu'elle soit radiée. Mais il me semble que le barreau pourrait se réveiller et envisager cette possibilité. Donc, je sais pas si le barreau nous écoute actuellement.
Surprendre.
On va entendre des criquettes.
Il y a des barreaux de chaises dans le studio, là, mais sinon.
C'est du cabotinage. Donc voilà, c'est tout pour les apatrides anonymes, balado du 26 janvier 2023. Je vous rappelle nos coordonnées. Tout d'abord, sur choc.ca, où nos quelques 80 podcasts sont disponibles en rattrapage. Si vous voulez vous faire 3 semaines sans sommeil, toujours.
Très intense.
On a aussi notre propre site web, apatridesanonymes.info. Notre courriel apatridesanonymes@resist.ca.
On a une page FB où on partage plein d'informations et on peut aussi être écouté sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM pour les gens de la côte ouest qu'on salue. J'en profite pour saluer et remercier mes deux comparses, Marie-Ève et Mathieu. Salut, bye-bye.
Merci Simon pour l'animation.
Un grand merci à vous, la recherche, la rédaction, la livraison dynamique et agréable.
Oui.
On se retrouve normalement dans 2 semaines, ce qui nous mène au 9 février 2023, probablement encore en formule préenregistrée, tout dépendant de l'avancement des rénovations dans les studios de Choc. Comme toujours, on se laisse en musique avec le band Ultramarine, qui est un groupe montréalais Dream Dark Pop Shoegaze, qui existe depuis 2021, à ne pas confondre avec un duo électro de Londres qui porte exactement le même nom. Donc, j'ai eu de la misère à les chercher dans des moteurs de recherche. C'est un peu étrange, d'ailleurs. Nous, on va écouter le groupe local, donc la pièce biomorphique de l'album éponyme d'Ultramarine, sorti en novembre dernier et qui est actuellement au palmarès franco de Choc. Bonne soirée, Marie-Ève et Mathieu.
Bonne soirée
à tout le monde qui nous écoute.
Bonne soirée à tout le monde. On se porte bien. C'était Simon aux Apatrides Anonymes et à dans 2 semaines.
À bientôt.
À bientôt.